Mon invité a été député de Nicolet-Yamaska de 1994 à 2007 sous la bannière du Parti québécois. Il était donc membre du caucus de Jacques Parizeau lors du fameux référendum de 1995. Il a connu quatre chefs pendant ses trois mandats à l'Assemblée nationale. Il a d'ailleurs joué un rôle de premier plan auprès de Bernard Landry dans sa brève course à la succession de Lucien Bouchard. Il est maître en histoire et a enseigné cette matière au Collège Notre-Dame-d'Assomption de Nicolet. Il a aussi beaucoup contribué à la diffusion de l'histoire régionale. Michel Morin, bonjour et bienvenue.
Bonjour, mon cher.
Michel Morin, vous êtes né donc en 1948, donc peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale. Vous êtes le troisième enfant d'un couple d'agriculteurs de Saint-Célestin. Parlez-nous de vos parents, de la ferme familiale qu'ils exploitaient.
Moi, je suis le troisième, comme vous venez de le dire. Troisième d'une famille de cinq. Mes parents se sont mariés en 1944. Et le plus vieux, Gilles, qui est agriculteur à Saint-Célestin, Claude demeure à Saint-Célestin, mon frère, moi. Ensuite, en 1948, ma sœur Lucie demeure à Nicolette et Joanne demeure à Saint-Célestin. Mes deux sœurs, Lucie, elle a 5 ans de différence et Joanne, 11 ans de différence avec moi.
Donc, vos parents, c'était Marcel Morin et Simone Danneau.
Simone une ferme... Danneau, oui.
C'était une ferme laitière qu'ils exploitaient?
Une ferme laitière, oui, tout à fait. Héritée de mon grand-père, Henry. Trop de Henry, ça peut paraître curieux, Henry, mais il y avait déjà à Saint-Célestin un monsieur qui s'appelait Henri Morin. Et bon, ben, à l'époque, on se cassait pas la tête, là. Et on a dit, bon, on va l'appeler Henry, parce que cette famille-là était allée aux États-Unis, travailler dans les factories, on appelait. Puis il y avait un peu dans de l'eau québécois. On l'a appelé Henry.
Est-ce que la ferme familiale existe toujours? Est-ce qu'elle est toujours?
Oui, et c'est mon frère Gilles qui était propriétaire jusqu'à dernièrement, et son fils Jean-François, et son épouse Ève, sont propriétaires de la ferme actuelle où je suis né.
Sur le rang Saint...
Dans le rang, nous autres on appelait ça dans le 2 de Saint-Célestin, mais c'est le rang Saint-Michel.
Et vous-même, comme enfant, qu'est-ce qui vous occupait, qu'est-ce qui vous tenait animé, quelles étaient vos passions?
Bien, moi, étant le troisième, j'étais assez bon à l'école. Puis ma mère, Simone Danneau, qui n'avait pas fait des études beaucoup, mais ma mère avait fait sa 7e année. Puis ma mère était exigeante et assez instruite. Elle écrivait sans faute et a trouvé que j'étais bon à l'école. Donc, elle surveillait mes études et je réussissais assez bien. Donc, j'allais à l'école de rang, dans le deuxième rang. Et ensuite, je suis allé à l'école du village, à Saint-Célestin. Et la réforme de l'éducation est arrivée. Ensuite, je suis allé à l'école de Nicolette, à l'école Curé-Brassard, qui était notre polyvalente à l'époque. Nous sommes dans les années 62, 63, 64. Et ensuite, j'ai fait ma 8e et 9e année. Et ensuite, je suis allé au Mont-Bénil. Par contre, j'ai fait une année au séminaire de Nicolette en 62, parce que à l'époque, quand on avait un peu de talent, il y avait des recruteurs à l'époque, qui venait faire de la sollicitation dans les écoles. Et on m'avait sollicité pour aller faire mon cours classique. Et je suis allé faire ma première année du séminaire de Nicolette. Et j'étais pensionnaire. On sortait trois fois par année. Et moi, là, je vais vous dire une chose. J'ai haï ça. Vraiment, là, puis... sans prétention au séminaire de Nicolette. Moi, être pensionnaire, là, j'aimais pas ça. J'étais bien chez nous, puis je me suis ennuyé, là, ça n'a pas de bon sens. Donc, l'année suivante, mon père avait ses expressions d'agriculteur. Il a dit à ma mère, « Regarde, on n'envoie pas un chien qui ne veut pas aller à chasse. Donc, on va le retourner dans le système public qui existait déjà, et je suis allé faire... Il a fallu que je fasse... que que je refasse ma 8e et ma 9e année scientifique à Nicolette, à l'école Curé-Brassard. Et sans orgueil, j'avais un bon talent. Et ça s'est continué avec le Mont-Bénil en 10e et 11e année jusqu'au cégep.
Vous avez été initié très jeune à la politique parce que votre père était organisateur politique, un vrai bleu. Hein? C'est ce que vous me disiez, je pense.
Mon père, là, vraiment, c'était d'abord un vrai bleu. Et chez nous, il y avait deux religions. L'actualité, première, et le hockey. Parce qu'il y avait, dans notre famille, sans prétention, Jean Béliveau. C'était parent avec nous. C'était le cousin germain de mon père. Donc, le Canadien de Montréal, là, c'était une religion. Bon. Deuxièmement, la deuxième religion, c'était Maurice Duplessis. Les Bleus, l'Union nationale, être un Bleu, c'était une religion, là. Puis, je vous raconte un fait, là. Le voisin d'en face, M. Bergeron, était un bon libéral, un grand ami de mon père. Mais quand il y avait des élections, là, il ne se parlait pas pendant 2 mois. Puis quand l'élection était finie, il s'assoyait sur le bord de la clôture, puis il jasait de température, il fumait leur pipe, puis il s'amusait, puis on était des grands amis.
Ça a été votre école, vous, de la politique, de la jeunesse?
Vraiment, c'est mon école et mon père aimait beaucoup l'actualité. On a eu une télévision assez tôt et les nouvelles, là, c'était, comme je vous dis, une religion. On écoutait le hockey, mais on écoutait les nouvelles. Et Marcel Morin, là, on lui parlait de la situation politique en Angleterre. Puis l'OTAN, il connaissait ça. Il n'y avait pas beaucoup d'instructions, mais il connaissait l'actualité politique. Donc, moi, ça m'interpellait, ça. Puis il nous expliquait ça. Puis moi, là, j'étais intéressé par ça. Donc, nous deux, on lisait le matin, parce qu'on était abonnés à la presse et au Nouvelliste. Mon père lisait la presse, moi, je lisais le Nouvelliste pour regarder les sports, si Jean Béliveau avait scoré ou Stan Mekita. Puis mon père, lui, vérifiait si, comment ça allait dans le domaine de la politique internationale. Puis je vous dis pas qu'on s'échangeait ça, mais quand arrivait l'heure du repas, ben Marcel jasait. Puis quand Marcel regardait la télévision, ben il faisait ses commentaires. Puis ma mère s'intéressait aussi assez bien à ça. Mais ma mère s'intéressait beaucoup plus à mes études.
Donc, ça vous a amené, ça, à déjà collaborer avec des hommes politiques. Est-ce que le premier, ça a été Clément Vincent?
Oui. Bien, le premier, en fait, le premier politicien que j'ai rencontré chez nous, c'est Camille Leroy. Camille Leroy, il était député de l'Union nationale dans les années 60. Et il était ami de mon père. Puis, il se comprenait bien, là, parce que c'était un agriculteur, M. Roy. Puis, je pense que le courant passait bien. Puis, mon père lui rendait bien l'organisation aussi du fait qu'il s'occupait de la politique. Donc, quand les élections arrivaient, mais là, il s'en occupait. Et on faisait le tour des familles avec... tout ce qu'il fallait pour convaincre les citoyens et citoyennes avec tout ce qu'il fallait. Les libéraux, eux autres, c'était de la tire ou des frigidaires. Je vous dirais pas que mon père, lui, c'était les petites caisses de bière en arrière du boguet, mais je me rappelle de ça un petit peu.
Donc, Clément Vincent, c'est quelqu'un de qui vous avez beaucoup appris également?
Oui. Là, on passe à un autre niveau. Clément Vincent, lui, a été élu d'abord au fédéral pendant un certain nombre d'années. Et mon père l'admirait beaucoup parce que c'était un agriculteur Et tout le monde aimait Clément Vincent. Un bon orateur, quelqu'un qui avait du bagou. Puis, quand Daniel Johnson est allé le chercher pour les élections de 1966, pour en faire le député de Nicolette à l'époque, mais ça a été très apprécié. Et Clément Vincent a été élu en 66. Et moi, j'avais le droit de vote pour la première fois en 66 parce que j'avais 18 ans. Et je me suis impliqué. Et mon père, Marcel, et ma mère ont dit, bon, ben là, on va te montrer comment on fait du pointage. Fait qu'on pointait. Pointer, ça veut dire on vérifie si un tel va voter pour nous autres, puis un autre va voter contre nous autres. Puis on faisait nos statistiques. Puis moi, j'aimais ça.
Un peu plus tard, vous allez vous impliquer en politique fédérale également, mais c'est important de dire également qu'en parallèle de cette action politique-là, vous avez obtenu en 1973 un baccalauréat en histoire, un certificat en éducation à l'UQTR. Plus tard, vous allez obtenir également une maîtrise à Sherbrooke. D'où vous vient cette passion-là pour l'histoire?
Mais moi, là, quand j'avais 15 ans, je voulais jouer au hockey. Mais j'ai bien vu mes possibilités à un moment donné. Puis, l'actualité m'a intéressé de plus en plus. Et quand je me suis inscrit au cégep, et en 12e année, à l'époque, on appelait ça le CPES, le cours préparatoire aux études supérieures. Il y a un prof, là, Mme Guillure, qui était une Française. Elle enseignait l'histoire. Et vraiment, cette madame-là m'a donné le goût de l'histoire. Et j'aimais ça. J'aimais ça entendre parler de ce qui s'était passé en Europe durant la Deuxième Guerre mondiale, de ce qui pouvait arriver à l'avenir. Donc, je me suis inscrit au cégep, parmi les premiers inscrits dans les premiers cégeps à Trois-Rivières, je me suis inscrit en histoire. Et j'ai aimé ça. J'ai continué première année, deuxième année, et j'ai assez bien réussi, mais je n'étais pas un talent extraordinaire. Mais j'avais des compagnons qui aimaient bien l'histoire, et en même temps, on échangeait, on sortait le soir. Écoutez, on est en pleine adolescence, là. On change le monde, là, à l'époque. Donc, bon, ben le marxisme, le trotskisme et le capitalisme, vraiment, là, ça faisait partie de nos grandes conversations, là. Mais, bon, fallait temporiser ça. Mais moi, j'aimais ça. Et j'ai continué à me suis inscrit à l'université en histoire. Et je choisis mes cours sur un peu l'histoire du Québec et du Canada. Donc, des cours, mettons, sur les mentalités québécoises, la ruralité, des cours intéressants, là. Intéressants pour moi. Des cours aussi sur le Moyen-Âge, j'aimais ça aussi. L'Antiquité, c'était moins mon bag, là.
Vous avez un intérêt aussi pour l'histoire religieuse, c'est ça qui vous
amène? L'histoire religieuse aussi, parce que, bon, bien, dû à ma famille, à mes origines, étant né à Saint-Célestin, à l'ombre de la tour des martyrs, puis dans une famille religieuse et traditionnelle, donc la religion, c'était important. Et l'idole à l'époque, au niveau religieux, je ne vous dis pas dans ma tendre jeunesse, là, mais l'idole de mes parents, là, c'était Calix Marquis, le fondateur de la Tour des Martyrs de Saint-Célestin et le cofondateur des Sœurs de l'Assomption, et qui était un bonhomme assez spécial, là. Soit dit en passant, on pourra en reparler, là, mais un monsieur...
Un monseigneur qui n'en était pas un, finalement.
Un monseigneur qui est allé chercher ses titres de noblesse. On pourra en reparler.
D'ailleurs, je pense que c'est l'histoire religieuse qui a fait en sorte que vous avez choisi l'université de Sherbrooke pour faire une maîtrise.
Oui, tout à fait. Parce qu'à l'époque, moi, quand j'ai fait mon bac à Trois-Rivières en histoire, ben, je me suis dit, puis là, j'ai terminé en 72, les jobs, là, autrement dit, les places de professeur en histoire, là, parce que tout le monde disait, pourquoi t'étudies en histoire? Tu n'auras pas de job là-dedans, tu n'auras pas d'ouvrage à part l'enseignement. Et... Bon, ben, finalement, je me disais peut-être que oui, peut-être que non. Donc, je me suis inscrit à l'Université de Sherbrooke et à l'Université Laval. Et à l'Université Laval, ben, l'abbé Neve Voisine, qui est l'auteur de la thèse sur Monseigneur La Flèche, décide de m'appeler. Il m'engage comme recherchiste pendant 2 ans. Et moi, j'aime ça. Je fais de la recherche dans les archives à Trois-Rivières, au séminaire à Nicolette, au séminaire de Trois-Rivières. Et là, j'en apprends de plus en plus. Je connais mon coin, je connais aussi les ancêtres, les façons de procéder et en même temps tout ce qui vient avec, là, les tiraillements aussi qui se faisaient à l'époque. Et j'aime ça. Et je décide de m'inscrire à l'Université de Sherbrooke en maîtrise. Mais M. Voisine me dit, tu serais mieux, oui, effectivement, à Sherbrooke, parce qu'ils sont plus spécialisés en histoire religieuse des cantons de l'Est. Puis, Mgr Charland, l'archiviste du séminaire de Nicolette, me dit, parce que j'allais souvent aux archives, tu serais mieux, Michel, là, puis Mgr Charland, c'est un brillant monsieur. Je lui en dois beaucoup, là. Il était paralysé, il avait de la misère à s'exprimer, mais il disait, tu serais mieux de travailler sur la colonisation de Calixte Marquis, parce que c'est son œuvre magistrale. Moi, je n'avais pas pensé à ça, parce qu'au début, je voulais m'inscrire dans une thèse de maîtrise sur la Tour des Martyrs. Et je décide, bon, ben, de suivre le désir de Mgr Charland, et je m'inscris comme Calixte Marquis, missionnaire colonisateur des cantons de l'Est. Et je suis accepté à Sherbrooke, et Mme André Desilets devient ma maîtresse de maîtrise. Maître de maîtrise, ça se dit mal, maîtresse de maîtrise, là, mais c'est elle qui dirige ma thèse de maîtrise, et elle la dirige très bien, vraiment, d'une compétence extraordinaire.
Donc ça, on va conclure avec ça avant de revenir à la politique. D'ailleurs, vous avez beaucoup contribué ici dans la région à la diffusion de l'histoire. Notamment, on peut dire que vous avez été directeur de la revue d'histoire des Cahiers Nicolétains. Vous
Oui.
avez travaillé avec la Société d'histoire également régionale. Donc, vous avez apporté votre contribution justement là, pour faire connaître l'histoire ici.
Oui. Nous sommes en 78 ou 79, et moi, là, ben, comme je vous disais, je suis impliqué dans l'histoire régionale, mais pas, autrement dit, pas pour publier, mais pour, d'abord comme prof, j'enseigne au Collège de l'Assomption. J'adore l'histoire, et je suis ami avec Denis Fréchette, l'abbé Denis Fréchette, qui enseigne la poésie et les arts, le français, entre autres, au Cégep à Trois-Rivières, qui est ami avec Monseigneur Martin. On se rencontre et on dit pourquoi Monseigneur Martin le veut. Son vœu numéro un, c'était de refonder une histoire, une société d'histoire régionale à Nicolette. Et bon, ben, on a décidé de s'occuper de ça et on a fondé la Société d'histoire en 78 avec Denis Fréchette, Berthe Crochetière, Roland Bonneau, Rita Saint-Pierre et Monsieur Gouin. Et Denis était notre président. Et vraiment, on a eu un grand plaisir. Mais fonder une revue d'histoire, les Cahiers Nicolétains, on s'est engagé à publier 4 numéros inédits, 4 fois par année. Puis toujours, bien, notre source première, c'était les archives de Nicolette. Parce que parmi les meilleurs, je ne suis pas un super expert, là, mais parmi les grandes archives régionales, Nicolette, là, le séminaire de Nicolette a des archives extrêmement riches. Donc, on allait s'inspirer de ça. On allait chercher nos sources là et on publiait des articles inédits. Puis on cherchait tout le temps des personnes qui étaient intéressées à l'histoire. Et pendant 10 ans de temps, on a publié 4 numéros par année. Et vraiment, c'est une belle source. Vraiment, peut-être un peu méconnue, mais il y a 2 ans, je m'en suis occupé encore un peu. Et j'ai dit, ça ne se peut pas que ces cahiers-là ne soient pas accessibles à tout le monde. Puis de les faire, mettons, informatiser, de les mettre sur support informatique. Et j'ai fait une demande à l'époque, parce que je connaissais un peu les dédales de la politique, j'ai fait une demande à l'organisatrice du Parti libéral ici dans la région. J'ai dit, garde, j'aimerais ça avoir une petite aide gouvernementale pour faire en sorte qu'on puisse mettre sur support informatique tous les cahiers nicolétains. Et Mme Englade, dans l'espace d'un mois et demi, le séminaire de Nicolette, parce que moi, je le faisais au nom du séminaire de Nicolette, on a reçu une belle subvention de 1 500. Donc, je me dois de le dire et de les remercier. Parce qu'actuellement, si vous faites une recherche sur, mettons, Jean-Baptiste Proulx, patriote, dans Nicolette Yamaska, Cahier nicolétain, vous allez avoir ça dans l'espace de 2 secondes.
Vous avez enseigné et vous avez également été cadre au Collège Notre-Dame d'Assomption à Nicolet. Une 20aine d'années environ, qu'est-ce que vous retenez de ces années-là?
J'ai été prof pendant... J'ai été prof de 75 à 89. Puis j'enseignais l'histoire Québec-Canada et relations internationales en 5e secondaire. J'adorais ça. Les belles années de ma vie là, de l'enseignement, moi, j'aimais ça, l'enseignement. J'aimais beaucoup ça. Puis, en 89, vu que je m'étais impliqué lors des élections de Louis Plamondon en 84 et en 88, je m'étais impliqué beaucoup. Mais croyez-le ou non, mais M. Meuronnet me nommait commissaire à l'immigration et au statut de réfugié pour un mandat de 3 ans en 89. Et pendant 3 ans, j'ai travaillé à Montréal comme commissaire à l'immigration et j'ai adoré ça. Mon mandat s'est terminé au bout de 3 ans parce que là, finalement, M. Plamondon avait laisser le Parti conservateur. Et vraiment, c'est une nomination politique. Puis, bon, il faut comprendre aussi que quand tu ressors de la politique, puis moi-même, j'étais d'accord, là, j'étais plus très conservateur à l'époque. Mm-hmm. Donc, j'ai pas été renouvelé.
Ceci dit, on va revenir peut-être un peu en arrière, là, parce que vous avez travaillé dans l'entourage, comme vous disiez, de Brian Mulroney lors des 2 courses... à la direction du Parti conservateur, celle de 1976 et celle de 1984. Parlez-nous un peu de votre implication à cette époque-là.
En 76, peut-être un peu moins. Oui. En 76, un petit peu, parce que M. Mulroney s'était présenté à la chefferie, mais il avait été battu par Joe Clark. Donc, moi, M. Mulroney, je trouvais que c'était l'avenir du Parti conservateur pour un Québécois comme moi. Bon, là, il a été battu, puis c'est Joe Clark qui a été élu, et il est revenu en 84. Et à l'époque, en 84, Mais moi, j'étais plus impliqué au niveau québécois. Donc, si on se souvient bien, René Lévesque, on est dans les années 80, René Lévesque avait dit, bon, ben avec Mulroney, on va prendre le beau risque. Fait que moi, j'ai pris le beau risque avec Louis Plamondon, parce que Louis Plamondon avait été élu ici notre député. Et j'ai été l'attaché politique de Louis Plamondon. Et j'ai travaillé, ben, ceux qui me connaissent, là, je prends ça au sérieux, là. Quand je fais de la politique, je fais de la politique. Puis nous sommes réélus. Non, M. Mulroney a été réélu, et Louis Plamondon aussi, en 88. Et on s'aperçoit que je donne un bon coup de main, là, puis que je suis vaillant, puis travaillant. Et bon, ben là, j'ai eu une nomination politique, commissaire à l'immigration et au statut de réfugié. Un mandat de 3 ans.
Vous l'avez dit un peu plus tôt, arrive l'accord du lac Meech avec tout le débat qui l'entoure, l'échec en fait de l'accord du lac Meech, et c'est là que Louis Plamondon quitte le Parti conservateur pour aller fonder avec Lucien Bouchard
Le Bloc québécois.
le Bloc québécois. Vous, qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là?
Quand ça a été le temps, là, mettons, de sonder les reins et les cœurs, là, l'accord du lac Meech, moi, j'y croyais. Je croyais qu'on pouvait vivre ensemble, là. Mais vu que ça a été refusé par très peu, là, par Terre-Neuve, puis par Elijah Harper, écoutez, là, on est frustrés, là. Puis on dit, bon, ben, ils veulent même pas de nous autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La frustration nous habite, mais en même temps, ce n'est pas juste une question de frustration. Vous ne voulez pas de nous autres? Ben, regardez, on va s'en aller. Et Louis Plamondon décide lui-même de se questionner, est-ce que je reste conservateur ou je laisse le parti? Parce que le Bloc québécois n'existait pas, là. Un des premiers qui a allumé cette idée-là, c'est quand Lucien Bouchard a écrit une lettre au Parti québécois qui est en congrès à Chicoutimi. Puis Lucien Bouchard dit à M. Parizeau, « Lâchez pas, Lucien Bouchard est le bras droit de Mulroney à Ottawa. Imaginez-vous le coup de tonnerre. » Et là, on s'est aperçu que le mouvement nationaliste, la fierté nationaliste, nous habitait. Habitait aussi Louis Plamondon. Avec Louis, bon, me consulte, consulte d'autres, et je vous avouerai que j'ai poussé assez fort pour que Louis décide de s'en aller, de quitter. Et là, on n'a pas fond... Moi, je n'étais pas là lors de la fondation du Bloc, mais Louis a décidé de laisser avec 5 ou 6 autres députés, dont Lucien Bouchard. Et Lucien Bouchard est devenu le chef. Ils ont fondé ça à Sorel, le Bloc québécois. Mais moi, à l'époque, j'étais commissaire à l'immigration. Donc, je n'avais pas le droit de m'occuper de politique. C'est une petite souffrance,
Ouais.
je vous avoue, là. Je vous disais tantôt, là, que moi, j'avais un mandat de 3 ans comme commissaire à l'immigration. Mais quand M. Plamondon a décidé de devenir Bloc québécois, mais c'est sûr que dans l'équipe de Brian Mulroney, on a dit, Morin, là, il n'est plus avec nous autres, là. Il est avec Plamondon. Donc, on ne m'a pas renommé. Moi, je suis redevenu prof au Collège de l'Assomption pendant 2 ans. Et là, je m'aperçois que M. Mulroney est en train de tricoter quelque chose, là, qui s'appelle les accords de Charlottetown, en voyant qu'on s'en allait vers un référendum de Charlottetown, mais moi, là, j'ai fait aller mes cordes un peu. Et j'ai dit à Louis Plamondon, tu devrais me nommer président du comité du non pour le référendum de Charlottetown dans Richelieu. Et nous avons gagné. Le non a gagné à 55 % et plus là, dans le comté ici. Déjà, là, mes cartes commençaient à être jouées un peu. Là. J'avais l'idée un jour de me présenter député. Mais j'hésitais beaucoup parce que je ne me faisais pas nécessairement super confiance. Puis là, j'ai tricoté mon affaire un peu. J'ai dit, si tu veux y aller, là, Morin, là, bon, ben, ça va être le temps. Tisse ta toile, là, puis fais-toi nommer comme président du non. Si tu gagnes, ton nom va être fait. Puis après ça, il va y avoir des élections l'année suivante, en 94, avec M. Parizeau, puis dans le PQ. Puis moi, j'étais toujours actif dans le PQ à l'époque, depuis 80, là. Je vais vous dire une affaire, mon pif était bon. Au niveau stratégique, là, je suis pas bon dans tout, là, mais au niveau de la stratégie, des fois, je suis pas pire.
Il reste que ça n'a quand même pas été une élection facile contre, c'était Maurice Richard qui était député jusque-là.
Ah oui, oui, bien là, je décide de mettre mon nom comme candidat du Parti québécois dans Nicolette Yamaska pour l'élection de 94. Quand il y a des conventions, il faut vendre des cartes de membres. Et j'en ai vendu des cartes de membres. Puis j'avais une bonne machine, j'avais une bonne organisation, j'avais des bons amis. Puis en même temps, j'étais connu par les vieux bleus, les vieux unionistes, les vieux nationalistes. Sûrement pas par les libéraux, mais j'avais pas d'ennemis. Moi, j'ai jamais été, mettons, là, quelqu'un de revanchard, là, de baveux, là. Monsieur Richard non plus. Donc, il y a une élection, j'en ai fait des porte-à-porte, j'en ai fait des milliers et des milliers. Puis, j'ai gagné.
Dans ce premier mandat-là, arrive le fameux référendum de 1995 avec la démission ensuite de Jacques Parizeau au lendemain d'un discours qui, on le sait, a été controversé. Mais vous partagez toujours, je pense, aujourd'hui, le sentiment que ce référendum-là a été volé?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, il y a une enquête après, là, l'enquête McDonald. C'est prouvé hors de tout doute que ça a été volé. Mettons, le Via Rail envoyait du monde à Montréal, puis Air Canada nous envoyait du monde. Le Love-In à Montréal, là, des milliers de personnes, est-ce qu'ils ont payé tous leurs billets? Nous autres, ici, là, le parapluie du oui, on avait le droit de dépenser 5 millions. Et je vous le dis, là, connaissant Lucien Bouchard et Jacques Parizeau, ça n'a pas dépassé ça, là. Mais là, le fédéral a mis toute la gomme, là. Les publicités le long des autoroutes, là, quand le comité du oui voulait acheter des pancartes, on disait, ah, ben là, c'est déjà réservé pour le camp du non. Ça leur a coûté une fortune, mais ils ont gagné aussi. Et il y a plein de choses qui sont prouvées hors de tout doute. Dans l'année qui a précédé le référendum, l'immigration est entrée par toutes les portes. Parce que quand on arrive au Canada, on est pour le Canada. Donc, on n'est pas pour la séparation. On est pour le non. Et ça a aidé beaucoup aussi.
Mais dans Nicolette Yamaska, par contre...
Mais dans Nicolette Yamaska, nous autres, on est dans une région... Ici, hors des grands centres comme Toronto, comme Montréal et Québec, surtout Montréal. Croyez-le ou non, là, il y a eu une assemblée à Saint-Perpétue et je pense, sans me tromper, il y a 27 maires sur 35 qui ont monté sur l'estrade qui était pour le oui.
Là arrive Lucien Bouchard. Après 30 ans de recul, quel regard portez-vous là, sur ce qui s'est passé par la suite? Parce qu'on a abandonné le projet souverainiste à ce moment-là. Il y a eu toutes sortes de difficultés au Parti québécois. Qu'est-ce que vous... quel est le regard que vous portez là-dessus?
Un peu de peine, là, je vous dirais. D'abord, premièrement, M. Parizeau démissionne. Puis la perte de M. Parizeau à l'époque, surtout de la façon dont il est parti, ça a été un peu, vous dirais, discutable. Mais l'arrivée de M. Lucien Bouchard, ah ben là, c'était du positif. Mais M. Bouchard arrive comme premier ministre du Québec et il est pris un peu dans une trappe. On vient d'avoir un référendum, puis on l'a perdu. Moi, j'ai toujours pensé, puis je ne fais pas de reproches, puis je ne suis pas assez compétent pour faire ces reproches-là, mais le lendemain de la défaite référendaire, je me dis, si M. Parizeau avait dit à ce moment-là, on va faire une enquête au niveau international, on va amener ça au tribunal de La Haye, parce qu'on nous a volé notre référendum. Imaginons-nous, là, on a perdu par à peu près 50 000 votes. Si on avait gagné par 50 000 votes, qu'est-ce qui serait arrivé? Moi, j'ai trouvé qu'on avait été vraiment là, des modèles. Ou, je ne dirais pas ce que je pense, peut-être un peu mou. On ne s'est pas assez battu. On ne s'est pas assez battu.
Quoi qu'il en soit, le PQ est réélu en 1998 et dans votre cas, vous obtenez cette fois-là une victoire qui est éclatante, là, écrasante, sur Daniel McMahon, le candidat libéral. Quand même un candidat de prestige pour le Parti libéral à l'époque.
Là. Ah oui, bien, M. McMahon, là, maire de Nicolette, préfet de la MRC et président du CRD, comme on l'appelait à l'époque, là, puis prof à l'université. Vraiment, là, Daniel, là, c'est une grosse pointure, autant que Maurice Richard pouvait l'être. Là. Par contre, sans me vanter, la politique, j'aime ça, puis je pense que je connais ça. Je voyais venir ça. En tout cas, je savais comment attacher mes fils, puis mes contacts, puis aller chercher un tel. Puis faire de la politique, c'est un art. Je pense que je l'avais, ça. Et j'ai gagné par une bonne majorité. Là.
4000 voix.
4000 voix, puis en tout cas, j'ai gagné dans toutes les pôles du comté. Mettons à l'entour de 275-300. Tous les pôles, j'ai gagné.
Lucien Bouchard vous nomme à ce moment-là adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité publique, M. Ménard. Comment vous accueillez à ce moment-là cette nomination-là?
Ah bien, c'est sûr que, regardez, là, quand on est élu député, puis là, ben, moi, là, c'est une très belle victoire, là. M. Bouchard était venu à Nicolette durant ma campagne électorale parce que j'étais un être un peu anxieux. Donc, un député anxieux. J'avais peur de perdre, là. Puis j'ai mis toute la gomme quand Lucien Bouchard est venu durant la campagne. Il y avait 1200 personnes au centre catholique, comme on l'appelait à l'époque. Et là, à ce moment-là, écoutez, M. Bouchard, il capotait, là, excusez l'expression, parce que vraiment, il y avait. Écoute, c'était bien décoré, c'était beau, là. Vraiment, là, il a fait un discours extraordinaire. Bon, bref. Là, les journaux, le lendemain, ont dit, oh! Regardez, la campagne du PQ allait plus ou moins bien, mais Nicolette, oups, a donné un élan à M. Bouchard. Bon, moi, là, j'ai pas pensé à ça tout de suite, là. Mais M. Bouchard m'en a reparlé après. Puis, bon, il m'a nommé adjoint parlementaire à la sécurité publique. Je pense à cause aussi de l'École nationale de police. Et soyons bien francs, là. Lucien Bouchard, il m'attendait pas qu'il me nomme ministre. Là. C'est pas n'importe qui peut être ministre.
Et vous m'avez déjà confié aussi que, justement, le fait que vous soyez quelqu'un d'anxieux, vous avez préféré que ce soit comme ça aussi.
Oui, ouais. Tout à fait. Moi, je veux pas me prendre pour un autre, là. Mais je veux pas dire que j'ai été choqué puis humilié. Non. Moi, là, la grandeur de mon jardin, je la connais. Je connais mes possibilités. Puis je sais ce que je suis capable de faire. Puis je sais renoncer à ce que je peux renoncer aussi. Là.
Cependant, janvier 2001, départ inattendu de M. Bouchard au retour du congé des fêtes. Bernard Landry rapidement se lance dans la course à sa succession et c'est à vous qu'il demande justement d'organiser sa campagne.
Mais oui. Le 11 janvier, si ma mémoire est bonne, le matin, d'ailleurs, on se doutait un peu que M. Bouchard, ça filait pas, là. On avait fini la session, là, un peu, d'une façon, là, c'était morose, un peu. Et le 11 janvier, on est convoqué à l'Assemblée nationale d'urgence, et M. Bouchard, blanc comme un drap, nous annonce qu'il quitte. Moi, je me souviens très bien, là, M. Landry pleurait. Moi-même, les larmes aux yeux, je vous dirais que 90 % des députés avaient la larme à l'œil. Là. On était défaits, là. Parce que quel timonier, là, Lucien Bouchard. Quel homme extraordinaire. Quelle admiration que j'avais pour lui, moi. C'est vraiment, là, puis j'en ai encore beaucoup. Sauf que là, il est 11 heures le matin. Bon, ben, je prends mon auto puis je redescends à Nicolette dans l'après-midi. Je m'en vais rejoindre ma conjointe Dominique le soir. Puis on soupe ensemble, puis c'est triste, là. Puis là, on se questionne. Puis tout à coup, je reçois un téléphone. Il est 9 heures. Bernard Landry. Michel, j'ai affaire à toi, je veux te parler. Je ne faisais pas partie du clan de Bernard Landry au niveau économique. Là. Par contre, je suis convaincu qu'il a fait son analyse un peu, puis il savait très bien que Morin, là, il confie lui une affaire, puis ça devrait marcher parce qu'il est vaillant. Fait qu'il me dit, Michel, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu penses que je pourrais me présenter. J'ai dit, oui, M. Landry. Oui. Est-ce que tu es prêt à m'aider? Oui, M. Landry. Comment? Il dit, est-ce que tu es prêt à être mon organisateur en chef? Oh là là! Oui, M. Landry. Puis là, je l'arrête tout de suite parce que là, j'ai déjà fait de la politique. Là, là je dis, M. Landry, on est combien? Il dit, t'es le premier que j'appelle. Donc, je suis tout seul, là. Non, il dit, Gilles Barry, puis moi, Bernard Landry et Gilles Barry, on va s'occuper des ministres. Toi, tu vas t'occuper des députés. Il dit, je suis tout seul, là. T'es tout seul. Je vais rester tout seul. Tu vas rester tout seul. Bon, mais parfait. Et là, c'était direct, là. Là, je me suis trouvé fantasme un peu. Mais en même temps, je me suis dit, garde, t'aimes ça politique, ben plonge. Bon, ben bref, il dit, viens me rejoindre, présente-toi demain à Montréal, tu vas rencontrer Carl Cloutier et Jean Bissonnette, mes deux attachés politiques. Et je les ai rencontrés, et là, on a discuté un peu. Le lendemain, j'ai appelé 5 de mes chums, hommes et femmes, stratégiquement puis géographiquement parlant, ceux qui sont bons, pas nécessairement tous mes amis, là, mais ceux qui sont bons avec un tel, une telle, une telle, je les ai appelés puis je leur ai dit, regardez, Bernard Landry m'a appelé puis il m'a demandé de diriger sa campagne. Moi, je vous appelle, est-ce que vous voulez me donner un coup de main? Fait que là, Solange Charest, à Rimouski, m'a dit, ben oui, j'accepte. Bon, ben Solange, là, écoute, si t'acceptes, je te rappelle dans 2 heures, je vais appeler Michel Letourneau, je vais appeler Michel Côté, je vais appeler Claude Boucher et Manon Blanchette. Là, homme, femme, puis selon les régions. En fait, je fais ça dans l'espace d'une heure, puis j'ai dit, on se rappelle, puis on fait une conférence téléphonique. Là, on s'est distribué chacun 5. 5 fois 5, ça fait 25. Là, il est à peu près, je vous dirais, 2 heures l'après-midi. Mais à 8 heures le soir, il me semble, si ma mémoire est bonne, on avait 28 qui étaient avec nous autres. Puis j'ai appelé M. Landry. J'ai dit à M. Landry, ça va très bien. M. Landry dit, moi, j'en ai 12. Avec Gilles m'a dit qu'on en avait 12. 12 plus 28, ça fait 40. On est 68. Donc, on gagne. J'ai dit, je vous rappelle, M. Landry, demain, parce que j'ai encore des vis à tordre un peu demain, là. Puis ça tordait, là. Puis le lendemain après-midi, je l'ai rappelé, puis là, on était sûr qu'on gagnait, là.
Donc, ça a pris... on a appelé ça la guerre des six jours,
La guerre des six jours. D'ailleurs, Bastel, dans son livre, il a appelé ça la guerre des six jours. Et mon nom est dans son livre, là.
Peu de temps après, c'est là que vous êtes nommé whip du gouvernement. Parlez-nous de ce travail. On le sous-estime peut-être, mais c'est un travail quand même assez important et prenant également.
Oui, puis le fait que moi, je dirigeais un peu la campagne de M. Landry au leadership, je ne l'ai pas fait pour être nommé ministre, là, parce que ce n'était pas mon objectif. Mais quand il m'a appelé pour me dire « Est-ce que tu accepterais d'être whip? » Ben, j'étais bien content. C'est un assez gros job, là, whip, là. C'est que les troupes soient heureuses, là. Tu contrôles beaucoup de choses, là. D'abord, premièrement, l'Assemblée nationale, la façon dont ça fonctionne, le président de l'Assemblée nationale est le président du conseil d'administration du bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale, là, c'est comme... Il contrôle toutes les finances, tout ce qui se dépense, et son bras droit, c'est le whip en chef du gouvernement. Et l'autre bras droit, c'est le whip en chef de l'opposition. Donc, c'est un très gros job. Tout le monde sait que quand tu es whip, tu es supposé d'être le préfet de discipline. Mais c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup. Mettons, là, les places à l'Assemblée nationale, c'est le whip qui les choisit. Vous voyez là ou non aussi les bureaux à l'Assemblée nationale au deuxième étage, quand tu es au gouvernement, c'est le whip qui choisit ça.
2003, c'est les élections générales. Le Parti québécois perd le pouvoir aux mains des libéraux de Jean Charest. Vous conservez le comté de Nicolas Yamaska, et ça, en dépit, je pense, des prévisions de votre propre parti?
Pas nécessairement. Non, parce que moi, je ne suis pas très inquiet, là. Mais... une élection, c'est jamais gagné. Hein. Si vous vous souvenez, en 2003, à tous les soirs, TVA publiait un sondage. Et au début de la semaine, nous étions un petit peu en avance. Je vous donne un exemple. 37 à 34. Mercredi, 34 à 34. Jeudi, là, on tirait de l'arrière par deux. Finalement, ça déboulait, puis pas à peu près, là. Dans l'espace d'une semaine, d'après moi et notre organisation, on a perdu 1500, 1800 votes dans une semaine. Puis la raison, c'est le débat qui a eu lieu avec M. Charest et M. Landry. La fameuse lettre que M. Charest a sortie à propos de l'intervention de M. Parizeau sur les ondes d'un poste à Shawinigan. Ça avait ébranlé M. Landry. Puis, d'ailleurs, M. Landry, il le confie après, là, il avait été mal préparé par ses bonzes. M. Landry n'était pas habitué de lire un texte. M. Landry, il apprenait un texte, là, et il pouvait le réciter par cœur comme ça. Fait que lui, là, il allait ad lib. Mais quand il était obligé de lire, il n'était pas bon. Puis, lors de ce débat-là, il n'a pas été bon. Il a perdu des votes, là. Il a perdu des votes beaucoup, beaucoup.
Vous continuez d'agir comme whip dans l'opposition, et c'est là qu'arrive 2004, et là, c'est un tournant pour vous parce que vous éprouvez des problèmes de santé,
oui.
de graves problèmes de santé.
Oui, oui, oui. En 2004, là, ça dépend comment on prend ça, être député, là. Peut-être que je n'avais pas le tour. J'aimais ça en maudit. Une des belles périodes de ma vie, là, c'était ça. Mais quand tu prends ça à cœur, ça veut dire prendre ça à cœur, hein? Je voulais rien manquer. Je voulais être partout. Je voulais plaire à tout le monde. Oui, à tout le monde. Puis quelqu'un m'appelait au bureau, puis oui, je vais aller te voir. Puis j'amenais ça un peu chez nous. J'étais un peu fatigué. D'abord, premièrement, on ne s'alimente pas nécessairement bien. On ne fait pas beaucoup d'exercices. Et on n'est pas nécessairement en super forme. Puis j'avais une question à poser en chambre à la ministre de l'Agriculture. Puis à la fin de la question, ça m'a fait mal là, au thorax. Là, j'ai tout fait. Oh là là! Là, je n'ai pas parlé de ça à personne. Puis la nuit suivante, là, ça a été un peu plus compliqué. Puis finalement, je me suis ramassé à l'hôpital à Trois-Rivières. Puis on m'a envoyé à l'Institut de cardiologie. Quelques jours plus tard, le cardiologue m'a dit, « Bon, ben monsieur Morin, on a examiné votre affaire, là, puis ça devrait marcher, là, mais on va vous passer le dernier parce que peut-être que vous n'avez un petit peu plus de bouchées qu'on pensait, là. » Là, il est 8h30, là. Puis j'ai passé à 1h30. Je suis couché sur la civière. Puis je regarde le plafond, les tuiles, là. Je les vois, là. Mais je vois passer ma vie aussi. Je vois passer tous mes déjeuners au bin. Et je vois passer toutes mes interventions, tout mon stress, ma famille, mes enfants, ma compagne Dominique qui me donne un coup de main. Finalement, ben c'est une angioplastie, ça s'est très bien terminé. Là, je me suis dit, là, c'est terminé. Ça faisait d'abord 3 mandats, 3 beaux mandats. Puis mon idole dans la vie, moi, c'est Jean Béliveau. Jean Béliveau, ça fait partie de ma famille. On est toujours orgueilleux de ça, là. Mon père et Jean Béliveau, c'était cousin Germain. Fait que moi, ça a toujours été mon idole. Et bon, ben, je me suis dit, retire-toi donc en pleine gloire comme ton idole.
Donc, vous prenez une pause, mais vous continuez jusqu'à poursuivre votre mandat au complet, mais en sachant à ce moment-là que ce serait terminé après ce mandat-là.
Oui, là, j'ai 2 mois, je pense, de repos. Puis quand je suis revenu, avant, M. Boitler, c'était Louise Arel. Puis Louise Arel m'a gardé comme whip. Parce que le whip, c'est lui qui l'écoute de tout le monde. Là. Quand il y a des petits parties, le whip, lui, il a des oreilles. Là. Il écoute. Puis là, ben, quand il y a quelqu'un qui a des petites affaires à reprocher, ben là, t'entends ça. Puis là, tu confies ça à ton chef, Mme Arel ou M. Landry. Voulez-vous là, rencontrer un tel? Parce que j'ai appris la semaine passée que la madame de Serge faisait du cancer. Puis Serge est magané au bout. Ah oui. OK. Bon. Louise, veux-tu aller vérifier un tel? Parce que il y a des petits problèmes d'alcool. Puis. Ah oui, OK, je m'occupe de ça. Un whip, c'est comme ça. C'est pas juste ça, c'est de donner des indications aussi. Là. Un tel, là, il chiale, là. Bon, mais regarde, voulez-vous y payer la traite un peu, là?
C'est en 2007 que vous annoncez officiellement votre départ?
En
2006.
M. Boitler a été élu comme chef 2 jours après son élection comme chef. J'ai dit, André, regarde, là, t'es nouveau chef, tu vas préparer ta relève, tu vas préparer tes principaux, là, alentour de toi. Fait que moi, je peux te dire une chose, je reviens pas aux prochaines élections, on est à 1 année des élections, là. Fait que je veux te donner l'heure juste. Lui, il en revenait pas, là, il dit, tabarouette, t'es donc bien correct de faire ça. J'ai dit, regarde, décide ce que tu veux, mais je te le dis, là, nomme quelqu'un à ton goût, là. Ben, écoute, je vais penser à ça, là, mais ça va bien, là. Puis là, il m'a renommé 2-3 jours après. En fait, j'ai été whip du Parti québécois pendant 7 ans. C'est pas un record, mais pas loin.
J'aimerais que l'on sache que le député de Nicolette Yamaska
fut un député d'équipe et qu'après tout son cheminement depuis 1966 dans l'Union nationale, en passant par le beau risque, il est un grand démocrate et aussi favorable à la souveraineté du Québec. Je quitte cette Assemblée, Monsieur le Président, avec la satisfaction du devoir accompli et je suis très content d'avoir représenté les gens de Nicolette Yamaska. Je vous remercie tous et chacun de votre collaboration. Bravo!
Dans votre dernier discours au Salon Bleu, on sent que vous êtes ému. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile de prendre cette décision-là, de faire ce trait-là?
Oui, c'était difficile, mais moi, je ne suis pas un grand tribun, là. Quand on est à l'Assemblée nationale, c'est pas pareil comme quand on est dans une salle de loge d'or. Puis à l'Assemblée nationale, bien là, t'es là. Puis moi, j'écrivais toujours mes discours. Mais si vous analysez ça, là, ceux qui font leur dernier discours à l'Assemblée nationale, ils ont tous un peu le moton, comme on dit, là. Puis surtout, quand ils parlent de leur famille. J'ai remercié Dominique, là, ma compagne depuis 20 ans. C'est elle qui faisait mes communiqués de presse, qui m'encourageait, qui corrigeait mes fautes. Qui me disait « c'est correct, c'est bien, c'est... lâche pas », puis d'une patience, d'une intelligence, puis elle composait très bien. Je lui en dois beaucoup.
De quelle réalisation, au singulier ou au pluriel, êtes-vous le plus fier au terme de ces trois mandats-là?
Bon, le plus fier, c'est sûr que c'est l'École nationale de police, à Nicolette. Le fait de reconstruire l'aile incendiée de l'École nationale de police, ça, là. Je veux pas être vaniteux, là, mais si, mettons, je m'en suis pas occupé, là, je m'en serais pas occupé, il n'aurait plus d'École nationale de police à Nicolette.
Et je pense que vous me l'avez déjà dit également, ça tenait beaucoup à cœur, ça, à Bernard Landry, quand il passait par Nicolette.
Ah oui, absolument. Beaucoup. Mais il s'agissait de convaincre Bernard Landry, qui était ministre des Finances, mais de convaincre aussi Lucien Bouchard. On avait fait venir M. Bouchard, puis on avait préparé un dossier avec les gens de mon bureau, quelque chose de très bien préparé. Nous nous sommes aperçus que la ville de Nicolette, à l'époque, il y avait un en-lieu de taxes, autrement dit, les communautés et les communautés religieuses, que j'admire beaucoup, là, puis les édifices gouvernementaux, ne payaient pas des taxes. Il y avait, je pense, 36 % de taxables qui n'étaient pas taxés à Nicolette. La seule ville qui s'en rapprochait, c'était Amos, avec 15 %. Là, M. Bouchard, il capotait quand il a entendu ça. Bon, ça, c'est un dossier qui était très bien préparé par mon personnel. Là. Puis là-dessus, là, on l'a très bien défendu. Et ça, c'est ma réalisation, là, bien, ma réalisation. M. Landry, beaucoup aussi. Et M. Bouchard, c'est sûr que c'est pas à cause de Michel Morin, juste. Michel Morin, mais Michel Morin, il a été tenace. Et là, je suis vaniteux un peu, hein, mais j'ai pas de misère. J'ai pas honte de ça pantoute, là. L'École nationale de police.
C'est un moteur économique qui est important, là.
Ah oui, puis j'en suis très content.
Comment vous appréciez la façon que la politique se fait? Ça fait quoi, quelque chose comme 16 ans, 17 ans que vous avez quitté maintenant?
Oui.
Quand vous regardez ça, est-ce que ça vous inquiète?
Oui. Oui, bien, des fois, il y a du monde qui me demande... ça te tenterait-tu de revenir en politique? Non. Pas avec les réseaux sociaux. Pas du tout. Pas du tout. Pas juste à cause de ça. L'autre chose, c'est que les gens sont beaucoup plus exigeants, beaucoup moins tolérants. La politique m'intéresse encore. La stratégie politique m'intéresse encore. Mais les déjeuners le dimanche matin, là, j'en avais deux, trois. Là. Moi puis Plamondon, là, on se rencontrait pas mal souvent. Louis est encore comme ça. Mais moi, j'ai pas cette résistance-là et cet appétit-là pour avoir continué, là, puis je ne commencerai pas nécessairement ça. Mais j'aime encore la politique et j'ai pas trop de problèmes pour la commenter non plus, mais j'ai un peu de problèmes pour m'impliquer, par exemple.
Merci, Michel Morin.
Bien, ça me fait grand plaisir.
Les grandes entrevues sont une production de Via 95. Entrevues, recherche et montage, Jocelyn Ouellette. Collaboration à la production et à la diffusion, Éliott Tousignan, Justin Savard, Philippe Saint-Pierre et Louis-Martin McCardle. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.